Radio Okapi.
Le journal, Pascal Masirica.
Okapi.
Les titres ce midi, au Nord Kivu, le bureau d'études, d'observation et de coordination pour le développement de Walikale redoute l'attaque des miliciens locaux sur la cité de Pinga. Pour mettre la population à l'abri du danger, le BDOA appelle au déploiement rapide des unités FRDC. Au pourparlers de Kampala, le M23 annonce l'imminence du dénouement de la crise par la signature d'un accord. Par contre, le gouvernement insiste sur la nécessité pour la rébellion de désarmer et de se convertir en parti politique. Quitte ou double cet après-midi à Lubumbashi au Katanga entre le tout-puissant Mazembe et le stade malien dans le cadre de demi-finale de la Coupe de la Confédération. Jean Gandou décrira l'ambiance qui règne en ce moment à quelques heures du duel. Bonjour à tous, en Nord Kivu pour commencer ce journal. Une menace d'attaque sur la localité de Pinga, en territoire de Walikale, reste perceptible. C'est ce que craignent en ce moment les responsables du bureau d'études, d'observation et de coordination pour le développement du territoire de Walikale. Pour le secrétaire général du BDOA, plusieurs indices laissent croire que certains groupes armés locaux, dont la PCLS de janvier et le Nyatura, FDDH, alliés au FDLR, veulent s'attaquer à la milice de Tcheka à Pinga avec toutes les conséquences humanitaires que cela comporte. Prince Kihangi Kiamwami plaide pour un déploiement urgent des FRDC afin d'assurer la sécurité de la population. Il est au micro de Gisèle Cage.
S'il y a affrontement, les premières victimes seront les populations civiles. Parce que les populations de Pinga ne sont pas protégées. Depuis tous ces temps, en tout cas, elles sont abandonnées à leur triste sort. Et au cas où il y a des affrontements, c'est une catastrophe à laquelle nous allons assister à Pinga prochainement. Nous nous sommes toujours adressés à l'autorité compétente de pouvoir déployer les FRDC à Pinga. Ou alors à la MONUSCO de se déployer à Pinga. Nous demandons à ce que l'État congolais puisse prendre des mesures imposantes. Est-ce l'État n'a pas le monopole d'assurer la sécurité des populations civiles? Pendant combien de temps on va laisser des populations entières sous le contrôle de groupes armés? Est-ce Tcheka qui doit assurer la sécurité des populations civiles là où nous avons des forces armées de la République? Et bien sûr, on doit également demander à la MONUSCO d'assurer cette protection des populations civiles.
Pour mémoire, je rappelle que le 30 septembre dernier, le BDOA avait prévenu les autorités congolaises sur des attaques imminentes en groupement Oufoumandou Ier. Et lundi dernier, les groupes armés Raia Mutomboki et Nyatura FDDH se sont affrontés, causant la mort de 2 civils et 3 villages entièrement incendiés. En plus bref, sachez que la MONUSCO déplore le manque de progrès dans la poursuite des auteurs des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire, dont des viols massifs commis en novembre 2012 à Minova dans le territoire de Kalehe au sud Kivu, ainsi que dans les villages avoisinants par des militaires des FRDC. Presque un an après les faits, aucun des auteurs présumés n'a été traduit en justice malgré l'appui accordé par la MONUSCO et d'autres partenaires aux enquêtes menées par les autorités judiciaires militaires et l'engagement aussi des autorités congolaises à les poursuivre. Les autorités congolaises doivent remplir leurs obligations conformément au droit international et au droit congolais, notamment vis-à-vis des victimes de ces actes effroyables et de leurs familles auxquelles justice doit être rendue, a indiqué Martin Kobler, le chef de la MONUSCO, dans un communiqué publié il y a quelques minutes. À Kampala, les négociations entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 connaissent de grandes avancées et leur dénouement pourrait être une question d'heure. Et c'est ce qu'affirment en tout cas les rebelles ce matin dans un communiqué. Mais la partie gouvernementale reste ferme. Le M23 doit notamment déposer les armes et se convertir en un parti politique. Kinshasa refuse également que tous les ténors de la rébellion du M23 auteurs des crimes soient amnistiés. Michel Kifindangoy.
Le M23 fait état des grandes avancées en train d'être obtenues à Kampala depuis la forte implication de la communauté internationale. Dans un communiqué publié ce samedi, le président de la branche politique du M23, Bertrand Bisimwa, fait notamment référence à la présence depuis mercredi dans la capitale ougandaise de Mary Robinson, envoyée spéciale de l'ONU dans les Grands Lacs, de son homologue des États-Unis, Russ Feingold, du chef de la MONUSCO, Martin Kobler, ainsi que des délégués de l'Union africaine et de l'Union européenne. Pour ce chef rebelle, le M23 Ottawa a consenti, je cite, des grandes concessions sur ses revendications politiques pour rendre possible la signature d'un accord de paix à Kampala dans les heures qui suivent. Fin des citations. Cependant, Bertrand Bisimwa ne précise pas la teneur de ses renoncements. Pendant ces temps, la partie congolaise campe sur sa position. Pour elle, toutes les personnes auteurs des crimes contre l'humanité, violences sexuelles et des recrutements d'enfants soldats ne seront pas éligibles à l'amnistie. Le gouvernement exige par ailleurs que les M23 déposent immédiatement les armes et que chacun de ses membres s'engage individuellement à ne plus être impliqué dans un groupe armé et à quitter sans délai l'est de la RDC.
La nouvelle est finalement tombée. Les deux chambres du Parlement congolais vont se réunir en congrès mercredi prochain ici à Kinshasa, renseigne le président du Sénat et de l'Assemblée nationale dans un communiqué rendu public hier soir par la RTNC. Selon ce document, cette rencontre sera consacrée à l'audition du discours du président Joseph Kabila après les concertations nationales. Cependant, dans les états généraux des partis politiques, les avis divergent quant au contenu de cette adresse, d'où cette mise au point d'un député de la majorité. Gaston Moussemena est au micro de Mimi Nguma Mulongo.
Le chef de l'État va annoncer des mesures qui vont mettre en application les différentes recommandations importantes de ces assises, entre autres l'ouverture politique pour assurer et cimenter la cohésion nationale, les mesures de grâce en faveur des personnalités qui ont été identifiées comme des personnalités politiques, quel que soit leur grief ou dossier au niveau de justice. Il va certainement aussi donner des instructions claires aux différentes institutions pour accélérer les réformes déjà en cours afin de nous amener directement aux élections locales telles que souhaitées par l'ensemble des concertateurs et certainement aboutir aux élections provinciales un peu après. Il ne s'agit pas de rendre public les noms du formateur du gouvernement lorsque on adopte une politique d'ouverture. La politique d'ouverture, c'est-à-dire on ouvre une fenêtre. On n'a pas ouvert la porte, il faudra que les gens comprennent. On a ouvert une fenêtre pour récupérer ceux-là qui veulent participer à l'édification de notre pays.
Et puis cette rencontre hier au Palais de la Nation entre le président Joseph Kabila et les gouverneurs de province. Au menu, l'évaluation à mi-parcours des recommandations de la troisième conférence des gouverneurs tenue en mars dernier à Kananga. Les participants reconnaissent des avancées sur l'application de ces recommandations. Mais ils notent qu'il y a encore des choses à réaliser en rapport avec la décentralisation, les crédits d'investissement et la poursuite de la campagne agricole. Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, l'a expliqué hier sur la RTNC. Ces propos sont recueillis par Askin Zigatayaro.
On évalue les recommandations de Kananga. Le chef de l'État a rappelé aussi bien au gouvernement que au gouverneur que la décentralisation constitue la préoccupation majeure de chacun, parce que c'est de là que découle le développement. En évaluant toutes les recommandations, il s'est avéré que dans le protocole qui avait été signé avec le ministère du budget, notamment concernant la consommation des crédits d'investissement, là, il y a des efforts qui devraient encore être déployés, et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État a donné des instructions claires pour que ce protocole soit respecté de manière à faire en sorte que tous les crédits d'investissement soient transférés en province pour les permettre de devoir attaquer à la base le développement. Nous avons également salué la campagne qui a été lancée un peu partout dans la République et que les crédits qui ont été reçus méritent d'être poursuivis parce que la campagne agricole s'inscrit dans la continuité. Que si la tranche qui a été donnée se limite au premier décaissement, eh bien tous les efforts qui avaient été déployés au départ vont être comme jetés dans l'eau.
Nous nous rendons maintenant au Kasaï oriental où des affrontements opposent depuis hier les habitants de Benakelende dans les territoires de Dimbelenge au Kasaï occidental à ceux des contrées agricoles de Bwenamuntu et Ntetansu dans le territoire de Kabeakamwanga au Kasaï oriental. Ces habitants se disputent des terres arables. Des tirs nourris ont même été entendus hier soir. Et sur place à Kabeakamwanga, des témoins parlent de 4 morts. Mais ce bilan n'est pas reconnu par les autorités territoriales des deux provinces. Radio Kapimbujima et le récit de Nick Mputu.
Des sources sur place affirment que les balles ont continué à crépiter jusque la nuit. D'après l'administrateur du territoire de Kabeakamwanga, les habitants de Benakelende ont fait irruption la nuit dans les contrées agricoles du Kasaï oriental. Ils auraient déterré des boutures, des maniocs et emporté quelques tubercules. Mécontents de cette destruction méchante, leurs voisins vont les chasser. Les présumés agresseurs chercheront du renfort des policiers et militaires armés. scandant des slogans et chants, indiquant clairement que les deux contrées de Kabeakamwanga leur appartiendraient. Ces hommes armés se sont ensuite mis à tirer en l'air. La police de Kabeakamwanga va répliquer des tirs nourris qui auraient duré toute la nuit, sémant une panique généralisée. Le bilan avancé par la partie agressée au Kasaï Oriental fait état de 4 décès, dont 2 civils et 2 policiers. Bilan que ne reconnaît pourtant pas l'administrateur du territoire de Kabeakamwanga. Les administrateurs de ces deux territoires en conflit l'ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Une rencontre entre les deux gouvernements provinciaux est prévue ce samedi pour tabler sur ce 1e conflit de terre entre ces deux peuples. Mbujimayi Nikemputu, Radio Okapi.
Sport pour finir ce journal qui tout double cet après-midi à Lubumbashi entre le tout-puissant Mazembe et le Stade malien dans le cadre des demi-finales de la Coupe de la Confédération. Les Corbeaux qui avaient remporté la manche aller il y a 2 semaines à Bamako auront en face d'eux une équipe malienne plus que déterminée à arracher la qualification pour la finale. Dans cette correspondance de Lubumbashi, Jean Gandou parle des préparatifs de ce duel.
Ces deux derniers jours, les différents points de vente de billets d'accès au stade étaient pris d'assaut par plusieurs milliers de personnes. Et pour faciliter la fluidité aux différentes entrées, ce samedi, les organisateurs ont ouvert les portes du stade depuis 10 heures locales. L'entraîneur de stade malien, qui reconnaît que l'équipe de Mazembe a le ticket de la finale en poche pour avoir gagné la manche aller, promet que ses joueurs mouilleront leurs maillots pour défier les Corbeaux dans leurs propres installations. Du côté de Mazembe, c'est la sérénité dosée d'une bonne prudence. Patrice Carteron, entraîneur de Mazembe, qui sera privé des 3 internationaux zambiens, Nathan Sinkala, Sunzu Stopila et Renford Kalaba, qui se retrouveraient en terre zambienne, misera sur le savoir-faire d'autres joueurs qui composent la formation de Mazembe. Et l'équipe qui se qualifiera ce samedi jouera donc la finale de cette 10e Coupe de la Confédération, au meilleur donc dès l'emporter. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Voilà comment se referme cette édition de vos nouvelles. Merci d'avoir écouté. Merci à Pelikipe Lamondo et à Noël Aluzitu qui m'ont aidé à façonner ce journal.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.